Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce que l'on fait n'est pas valorisé. Résilience Montréal inquiet pour son avenir. Un texte de Philippe Granger, paru le 6 février 2025 dans Espace autochtone. C'est très simple, ce que l'on fait n'est pas valorisé. Je ne suis pas sûre que le ministre des Services sociaux comprenne ce que nous faisons, ou même qu'il veuille vraiment comprendre ce que nous faisons. En entrevue avec Espace autochtone, le directeur du refuge Résilience Montréal, David Chapman, sonne l'alarme, lui qui, dans une récente lettre adressée à Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, déplore le manque de financement pour son organisme, dont les locaux sont situés sur la rue Sainte-Catherine, à l'angle de l'avenue Atwater, sur la frontière entre Montréal et Westmount. D'emblée, le directeur du refuge et sa directrice du développement et de la philanthropie, Nakousette, ont souligné dans cette lettre au ministre qu'il fut un plaisir de le rencontrer en octobre dernier lors d'une visite de leur futur emplacement et qu'ils ont apprécié son intérêt à collaborer avec eux. Mais ils se disent surpris d'avoir appris le mois dernier qu'aucun financement ne serait alloué pour combler leur déficit et soutenir leur proposition d'expansion. David Chapman et Nakousette précisent avoir pourtant envoyé, tel que demandé, un budget le 1er novembre, présentant leur plan pour assurer la bonne entente avec le quartier environnant. Ils ajoutent avoir répondu aux questions du bureau de Guillaume Clich-Rivard, député de Québec solidaire, concernant leur déficit opérationnel de 350 000 $ pour l'année fiscale en cours, pour un budget d'environ 2,2 millions de $. Le ministre Lionel Carman réagit. Si rien ne change, il ne resterait que 3 semaines avant que Résilience Montréal n'aille sous la barre du zéro. Et une fois que nous serons passés sous la barre du zéro, nous devrons envisager de fermer nos portes pendant un certain temps, explique David Chapman. Sans le financement nécessaire à la mise en œuvre de ce plan, cela non seulement ignore les préoccupations des entreprises et des résidents locaux, mais compromet également notre capacité à servir la population non logée, mettant en danger tous les segments de la communauté, indique le communiqué qu'il a co-signé. Dans une déclaration partagée à la presse, le ministre Carman assure que le gouvernement comprend les défis que traverse actuellement l'organisme, confirmant du même coup que le CIUS Centre-Sud prendra contact avec l'organisme afin de leur offrir du soutien. À ce jour, le CIUS nous confirme que l'ensemble des financements prévus dans le cadre du plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 ont été versés et des fonds additionnels provenant du secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits ont également été alloués. Le ministre souligne finalement que l'organisme a été invité à soumettre son projet dans le cadre de l'appel à projet des fonds fédéraux, ce qui pourrait représenter une source de financement complémentaire. Le directeur du refuge, lassé. David Chapman dit donc attendre fermement l'appel du CIUS Centre-Sud, mais il admet qu'il trouve la situation très fatigante. Voici ce qui est difficile à comprendre. Comment se fait-il qu'une organisation dirigée par des autochtones, dont le conseil d'administration est entièrement autochtone et dont le personnel est composé à 50 % d'autochtones et qui sert les autochtones qui ne sont pas logés et qui sont souvent des survivants des pensionnats de deuxième génération, comment se fait-il qu'une organisation comme celle-ci a du mal à obtenir un financement opérationnel pour exister? Dans un pays, une province et une ville qui parlent tant de réconciliation? Le directeur du refuge déplore que les différents paliers de gouvernement ne cessent de se renvoyer la balle et trouve irritant que le ministre le réfère aux fonds alloués par le gouvernement fédéral. C'est bien, Vous aimeriez que nous nous adressions au fédéral. Pourquoi avons-nous eu une réunion en octobre alors? Pourquoi nous avoir demandé un budget d'expansion? Pourquoi vouliez-vous parler de partenariat? Pourquoi nous avez-vous dit que le CIUS devrait nous soutenir davantage en termes de financement opérationnel? Dit David Chapman. David Chapman se demande ainsi s'il y a un quelconque leadership dans ce gouvernement ou s'il devra regarder ailleurs que dans les gouvernements pour pouvoir en trouver. Vous savez, quand vous avez l'impression que quelqu'un vous tire sur la corde, nous n'avons pas envie de nous faire tirer autour. En outre, le directeur de Résilience Montréal se désole que, par le passé, des subventions ne leur aient pas été octroyées en raison de technicalités. Il se souvient ainsi d'une fois où le ministère aurait refusé de lui accorder l'aide liée au programme de soutien financier aux organismes communautaires parce qu'il aurait noté que certains membres du conseil d'administration ne venaient pas de l'île de Montréal. Vous êtes en train de me dire que vous n'arrivez pas à trouver un moyen de contourner certaines de ces technicités stupides? Vous êtes surpris que, dans une organisation dirigée par des Autochtones, certains membres vivent dans des réserves? Les services d'urgence délaissés? David Chapman pense que le type de refuge qu'est Résilience Montréal pourrait expliquer en partie l'attitude qu'il reproche au gouvernement. Nous avons été surpris d'apprendre que, sur un budget de 24 millions de dollars visant les campements entre 2024 et 2026, seulement 9 % des fonds étaient attribués aux centres de jour comme Résilience Montréal, avait-il ainsi écrit dans sa lettre adressée au ministre Carman. David Chapman juge que ce type de refuge est stigmatisé et qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur par certains, mais plutôt comme un patch sur un patch, soit une solution éphémère, peu efficace et peu rentable. Selon lui, ce qui est plus favorisé en termes de financement, ce sont les initiatives de type « logement d'abord », qui visent à contrer l'itinérance en proposant aux sans-abri un logement stable. Une situation qui, à ses yeux, porte atteinte à la pérennité des services d'hébergement d'urgence. Les gens aiment l'idée qu'ils peuvent obtenir plus en dépensant moins d'argent. Les contribuables adorent cela. Et ils diront « Regardez en Finlande, ils ont ça. Et ils ont réduit le nombre de sans-abri de 50 % avec le programme Logement d'abord. » Mais est-ce que la Finlande a ces centaines d'années de génocide culturel? Sommes-nous en Finlande? Confie David Chapman. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une sorte de conte de fées. Le phénomène des sans-abri au Canada n'est pas prêt de s'arrêter. L'une des raisons est qu'il y a eu des générations de génocide culturel avant cela. Et il faut beaucoup de temps pour s'en sortir, bien plus qu'une simple politique de logement improvisé. Le directeur de Résilience Montréal souhaite toutefois préciser une chose. Il n'est pas contre les mesures destinées à loger les sans-abri. Nous ne sommes pas opposés à l'idée de dépenser de l'argent pour le logement. Mais si vous n'investissez pas simultanément dans les ressources qui permettent aux gens de rester en vie pendant ce temps, alors vous ne mettez pas fin à l'itinérance. Vous mettez fin aux itinérants. C'était « Ce que l'on fait n'est pas valorisé, Résilience Montréal inquiet pour son avenir », un texte de Philippe Granger, paru le 6 février 2025, dans « Espace autochtone ». Petit précis du huage, un texte de Mario Girard, paru le 18 février 2025 dans la presse. A-t-on le droit de huer un hymne national? La question est sur toutes les lèvres, depuis que les spectateurs du Centre Bell ont solidement conspué le Star-Spangled Banner, lors de la confrontation des quatre nations qui opposait samedi soir le Canada aux États-Unis. Je n'entrerai pas dans ce débat, me contentant de dire que j'ai trouvé les huées tellement plus inoffensives que les bagarres qui ont suivi. Huées fait partie des codes du spectacle ou des manifestations sportives depuis la nuit des temps. C'est l'un des langages dont dispose le spectateur pour s'exprimer. Ce dernier a le droit de signifier son approbation ou sa désapprobation en applaudissant, criant, huant ou sifflant. C'est son droit. Avec une bonne huée, le message est clair. Cette pratique du huage remonterait au temps de la Grèce antique. Appelés à voter pour la meilleure tragédie lors de concours, les spectateurs émettaient des sons empruntés aux animaux, particulièrement des bovins. En huant, le public disait aux acteurs et aux auteurs qu'ils ne valaient pas mieux qu'un animal. Disons que le travail des critiques d'art a gagné en nuances avec le temps. Huer un artiste ou une personnalité est un geste cruel, j'en conviens. Celui ou celle qui en est la cible vit une descente aux enfers. Parmi les huées célèbres, il y a bien évidemment celles qui se sont abattues sur Bob Dylan le 25 juillet 1965 lors du festival de Newport. Le roi du folk a créé un véritable choc en empoignant une guitare électrique, une Fender Stratocaster, pour interpréter Maggie's Farm. Et misère que ça n'a pas passé. On pourrait aussi parler de Maria Callas, qui, le 2 janvier 1958, devant tout le gratin de Rome, n'a pas été capable de porter Norma comme il se doit. La voix fragilisée par la maladie, la chanteuse a reçu les huées de certains spectateurs installés au poulailler au moment d'interpréter l'air de Castadiva. Profondément blessée, elle a décidé de ne pas revenir sur scène après l'entracte. Ce scandale a fait le tour du monde. Personne n'est à l'abri des huées. Steve Jobs a goûté à cette médecine lorsqu'en 1997, lors du Macworld Expo, il a annoncé une association avec Microsoft. L'habile orateur s'en est toutefois bien tiré. Avec l'univers des sports, le monde de l'opéra est celui où le huage est le plus pratiqué. En Italie, c'est carrément un sport national. À Bayreuth, lieu de pèlerinage des Wagneriens en Allemagne, gare aux metteurs en scène, aux chefs ou aux chanteurs qui ne respectent pas l'œuvre du maître. Ils se font lyncher. Chez nous, le huage est peu pratiqué dans le monde des arts. Je me souviens toutefois d'un spectacle de Joe Cocker qui, après avoir fait 3 ou 4 chansons, a quitté la scène pour ne plus revenir. Cette fois, le public y est allé de bonne huée. Et c'était mérité. Au Québec, on a plutôt l'ovation facile. Peu importe si le spectacle est bon ou mauvais, on se lève pour applaudir. On peut voir cela comme une politesse extrême, mais aussi comme une forme d'hypocrisie. J'ai vu la semaine dernière un spectacle d'un ennui mortel. Qu'ont fait les spectateurs à la fin? Ils se sont tous levés sans aucun enthousiasme. Quand un acteur est mauvais, les applaudissements le rendent pire, a déjà dit Jules Renard. Mes meilleurs moments de huage, je les ai vécus au Festival de Cannes. Les spectateurs, des critiques pour la plupart, maîtrisent cet art à la perfection. Ils alternent entre huée et sifflet, car il faut savoir qu'il y a 2 types de sifflets. Chez nous, on a recours au sifflet fougueux. Mais en France, un sifflet mou à la fin d'un spectacle veut dire qu'on a détesté. Anne Hathaway, les membres de One Direction, Rihanna, Kristen Stewart, Ed Sheeran, Kim Kardashian, Kanye West, Nicki Minaj, Elon Musk et Justin Bieber font partie des personnalités qui ont été huées ces derniers temps pour des raisons diverses. Taylor Swift, conjointe de Travis Kelce, des Chiefs de Kansas City, a eu droit à ce traitement lors du Super Bowl. Novak Djokovic, un habitué des huées, s'est aussi fait savonner à quelques reprises au cours des derniers mois. Quant au lutteur Hulk Hogan, c'est sous une pluie de huées qu'il a fait son retour dans la World Wrestling Entertainment. Il semble que la huée connaît un regain de popularité en ce moment. Et je crois qu'il faut se préparer à voir de plus en plus ce genre de manifestation. Cette pratique a d'évidentes ressemblances avec les tirs groupés anonymes des réseaux sociaux. Quand on hue, ce n'est pas tout à fait nous qui faisons le geste. C'est la foule dont on fait partie, dans la pénombre d'un amphithéâtre, qui pousse ce cri collectif de contestation ou d'opposition. Huer en groupe procure une impression d'unité et de force. On fait partie d'un groupe qui impose sa suprématie, qui intimide et qui insulte. Huer est une arme libératrice. Il faut se le dire, il y avait quelque chose de carrément thérapeutique samedi dans les huées qui ont enterré l'hymne américain. Louise Forestier se demande pourquoi chanter. Moi, je dis, pourquoi huer? J'espère que nous n'assisterons pas à une prolifération de huées. Celles-ci perdraient leur valeur. Il faut choisir les bons moments. Se faire huer, ça se mérite. C'était « Petit précis du huage », un texte de Mario Girard, paru le 18 février 2025 dans la presse.
Des dortoirs du chantier de la Romaine serviront à loger des itinérants à Montréal. Un texte de Marco Fortier paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir. D'anciens dortoirs de travailleurs du chantier hydroélectrique de la Romaine en Mingani doivent héberger à compter du printemps 2025 90 personnes vulnérables de Montréal. Le comité exécutif de la ville vient d'autoriser un contrat de 3,2 millions de dollars à l'entreprise RCM Modulaire de la Beauce pour l'installation d'unités modulaires sur 3 sites de la métropole. Ces logements dits transitoires doivent héberger temporairement des personnes qui attendent un logement social. Il ne s'agit pas de refuges d'urgence où les itinérants pourront passer le jour ou la nuit, a expliqué mercredi matin Valérie Plante. Le but est de sortir les gens des ressources d'urgence pour les amener vers un logement, a précisé la mairesse de Montréal. Ces dortoirs seront munis de bases de lits, de sommiers, de matelas, de chaises, de meubles, de télévisions et de petits réfrigérateurs. Chacune des chambres aura aussi une fenêtre. Les 4 centrales du complexe hydroélectrique de la Romaine ont été construites entre les années 2009 et 2022. Quelques 2000 travailleurs ont habité dans ces roulottes de construction, au plus fort du chantier. La ville prévoyait d'acquérir 60 logements modulaires, mais en recevra 30 de plus en vertu de ce contrat. Les modules seront installés sur des terrains situés aux 50 rue Louvain-Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi que sur le site de l'ancien hippodrome dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. La mairesse a indiqué qu'un troisième site a été déterminé pour accueillir ces dortoirs. Service d'accompagnement. Les logements seront mis en service à partir du printemps 2025, a précisé la ville. Accompagnés par des organismes communautaires qui seront identifiés prochainement pour gérer ces habitations, les personnes hébergées pourront profiter du soutien d'intervenantes et d'intervenants psychosociaux spécialisés qui veilleront à accompagner les personnes dans leur démarche et à faciliter le partage cordial de l'espace public, indique un communiqué. Valérie Plante a de nouveau rappelé le double défi de la ville. Construire des milliers de logements sociaux pour les gens qui parviennent difficilement à se loger à cause de l'explosion des coûts de l'habitation et sortir les personnes itinérantes de la rue. En ce moment, il y a des gens qui dorment dehors, gang. Ils ont froid, ils ont faim. Ça vient me chercher, a lancé la mairesse. Elle a martelé une fois de plus sa requête d'un plan national de lutte contre l'itinérance. Les contribuables montréalais paient pour des services aux personnes itinérantes, une responsabilité qui relève pourtant du gouvernement du Québec. La ville a ouvert des haltes chaleur d'urgence au centre-ville et dans l'arrondissement de Saint-Laurent. La facture sera envoyée à Québec. L'administration Plante achète aussi des terrains et des bâtiments dans le but d'offrir des logements sociaux ou des services aux personnes vulnérables. La mairesse a cité l'église Sainte-Bibiane dans le quartier Rosemont et l'îlot voyageur à côté de la station de métro Berry-UQAM, où 1000 logements seront construits. C'était « Des dortoirs du chantier de la Romaine serviront à loger des itinérants à Montréal ». Un texte de Marco Fortier, paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir.
Comment faire épargner une fortune à Santé Québec? Un texte d'Alain McKenna, paru le 12 février 2025 dans La Presse. On n'a pas toujours besoin de systèmes informatiques archi-complexes pour améliorer le réseau de la santé. Par exemple, la société montréalaise Eugéria a mis au point quelques solutions numériques simples qui évitent à la santé publique des dépenses annuelles d'environ 10 000 $ par patient. Il suffisait d'y penser. Évidemment, Eugéria a fait un peu plus que simplement y penser. Elle a agi. Valérie Larochelle connaît bien les chiffres et l'entrepreneuriat. Kwok Din Goyen est médecin spécialisé en gériatrie. En 2017, ils ont fondé ensemble l'entreprise en estimant qu'il était possible de combiner leurs deux expertises pour s'attaquer efficacement à un problème qui ne fera que grandir dans les années à venir, le vieillissement de la population. Eugéria a donc mis au point une plateforme de vente en ligne où elle vend des solutions trouvées un peu partout sur la planète qu'elle adapte pour le marché québécois. Pour ne pas s'éparpiller, elle a décidé de cibler le nombre croissant de gens qui commencent à démontrer les premiers symptômes cognitifs associés à la maladie d'Alzheimer ou à la démence. Au fil du temps, Eugéria s'est mise à développer ses propres produits. Elle a décidé de s'adresser plus directement aux dirigeants de centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, et de résidences pour personnes âgées, RPA, de la province, puis du reste du continent. Ces dernières années, Eugéria a remporté un succès phénoménal partout en Amérique du Nord. Elle faisait partie en 2024 des entreprises canadiennes dont les revenus ont augmenté le plus rapidement. De 2021 à 2023, son chiffre d'affaires a bondi de 1528%. À l'heure actuelle, les États-Unis représentent plus de 60% des ventes d'Eugéria, d'une valeur annualisée qui se situe entre 5 et 10 millions. Nul n'est prophète. Un déficit de solutions. Le produit vedette d'Eugéria a l'air banal. C'est une horloge, numérique et connectée. Elle se dépose simplement sur la table de chevet, de cuisine ou de salon chez une personne qui démontre les premiers signes d'une perte d'autonomie cognitive liée au vieillissement. L'appareil coûte 250 $, la moitié du prix d'un iPad. Si vous avez mal aux jambes, il existe plein de solutions techniques simples pour compenser, comme des cannes ou des marchettes, illustre Valérie Larochelle. Des aides techniques similaires pour corriger un trouble cognitif simple, il y en a vraiment très peu. Il y a une tonne de solutions pour surveiller ou analyser, mais qui ne dépannent absolument pas les gens dans leur quotidien. L'horloge agit comme un babillard qui affiche le jour, la date, l'heure, les événements à venir et des notes envoyées à distance par des proches. Ça a l'air simple, mais ça fait toute la différence, a-t-on découvert chez Eugéria. Un des premiers symptômes de l'Alzheimer est qu'on peine à se situer dans le temps, explique sa cofondatrice. À partir de là, on rate des rendez-vous, on oublie ses activités quotidiennes, on s'isole de son entourage. Notre horloge permet de mieux structurer son horaire. L'horloge de Géria est aussi connectée, donc un proche aidant peut suivre à distance comment la journée se déroule. C'est pratique pour les gens qui veulent demeurer autonomes plus longtemps, dit Mme Larochelle. Et ça marche. Moins de consultations requises. Le prochain objectif de Géria, convaincre Santé Québec d'adopter massivement son horloge. La PME d'une trentaine d'employés a mené un projet pilote dans un CLSC où elle a pu mettre ses prétentions à l'épreuve. Des patients qui auraient dû déménager dans un environnement supervisé, ont pu demeurer chez eux plus longtemps. Parmi leurs patients, chaque horloge a réduit de 90 % le nombre de consultations à domicile qu'aurait normalement dû faire le personnel soignant. L'économie de temps se traduit par une économie d'argent pour le système que Géria évalue à 10 000 $ par patient ainsi accompagné. Dans un contexte de coupe dans le budget de Santé Québec, c'est une solution en or, assure le directeur de la technologie d'Eugéria, David Bordelot. On répond à tous les besoins, dit-il. On aide plus de gens, on allège le fardeau du réseau public et on le fait à moindre coût. Il suffisait d'y penser et d'agir. C'était « Comment faire épargner une fortune à Santé Québec », un texte d'Alain McKenna paru le 12 février 2025 dans la presse.